Voici un extrait du livre de Laurent Tillon, Être un chêne sous l'écorce de Carcus, aux éditions Actes Sud. Personne n'était insensible à la situation de nos forêts. Elles étaient devenues le sujet de grands débats philosophiques sur la place de la nature et l'industrialisation de notre société, l'abandon des campagnes et l'expansion des villes. Pouvions-nous perdre et abandonner ce précieux contact avec la nature ? Les penseurs des Lumières s'en étaient mêlés, eux aussi. Rousseau, notamment, si important dans l'évolution des idées, amoureux des arbres depuis toujours, ces êtres auprès desquels il avait besoin de se ressourcer, s'était fait l'ambassadeur des forêts naturelles. Il les considérait déjà comme des lieux privilégiés, propices à la méditation, lui-même s'y adonnait, croyait qu'elles étaient le seul moyen de fuir les malheurs du monde. Pour lui, seules les forêts permettaient de ressentir le vrai bonheur, de cultiver la beauté en toute chose. Il allait si loin que les enjeux politiques, économiques et industriels du moment ont effacé ces belles idées. Mais quel précurseur ! La vision sensible et romantique de Rousseau a bouleversé clairement et pour la première fois notre façon de percevoir la forêt. De ce mouvement naît progressivement l'idée, pour le coup très matérialiste, que les perturbations de la forêt pourraient entraîner potentiellement des catastrophes hydrologiques, climatiques, déjà, et géologiques en chaîne. Pas seulement dans les forêts d'ailleurs, mais aussi dans nos paysages en général et plus globalement pour nos sociétés. Par exemple, on commence à penser que la forêt joue un rôle essentiel de purification de l'air, les arbres transformant les miasmes, les poussières et les gaz délétères en air pur. Incroyable clairvoyance! Du temps des Lumières et de ceux qui leur succèdent naît ainsi une ébauche de pensée écologique. Depuis le début du XIXe siècle, des penseurs considèrent qu'il devient urgent de ne plus déboiser, mais qu'il faut planter absolument. La France doit être reboisée. De fortes inondations en 1840 et en 1856 leur donnent raison, car on les attribue au déboisement récurrent, les arbres n'assurant plus le frein si nécessaire à l'écoulement des eaux. Les passions se déchaînent. Les désaccords sur les diagnostics écologiques des dérèglements observés dans la nature n'en finissent pas d'entraîner de longs débats, même à l'Assemblée. Il faut objectiver les constats de terrain. On réclame des chiffres. Et c'est à cette période que la science commence à s'intéresser à la forêt. On parle alors de techniques de gestion forestière. On parle de reboisement, en montagne par exemple, pour fixer les sols et éviter les éboulements. On propose enfin un service qui viserait à encadrer la gestion, avec des personnels mieux formés au fonctionnement de la forêt et à sa gestion, à la sylviculture, c'est-à-dire à la manière de cultiver efficacement les forêts. Le code forestier doit impérativement être appliqué. C'est ainsi qu'en 1829, alors que la forêt ne s'est jamais portée aussi mal, sont créées la première école forestière et le prestigieux service des eaux et forêts.
Aux arbres de Victor Hugo, Les Contemplations, 1856. Arbre de la forêt, vous connaissez mon âme. Au gré des envieux, la foule loue et blâme. Vous me connaissez, vous, m'avez vu souvent, seul dans vos profondeurs, regardant et rêvant. Vous le savez, la pierre où court un scarabée, une humble goutte d'eau de fleur en fleur tombée, un nuage, un oiseau, m'occupe tout un jour. La contemplation m'emplit le cœur d'amour. M'avez vu 100 fois, dans la vallée obscure, avec ces mots que dit l'esprit à la nature, questionner tout bas vos rameaux palpitants, et du même regard poursuivre en même temps, pensif, le front baissé, l'œil dans l'herbe profonde, l'étude d'un atome et l'étude du monde. Attentif à vos bruits qui parlent tous un peu, arbres, vous m'avez vu fuir l'homme et chercher Dieu. Feuilles qui tressaillaient à la pointe des branches, nid dans le vent au loin sèment les plumes blanches, clairières, vallons verts, déserts sombres et doux, vous savez que je suis calme et pur comme vous. Comme au ciel vos parfums, mon culte à Dieu s'élance, et je suis plein d'oubli, comme vous de silence. La haine sur mon nom répond en vain son fiel. Toujours, je vous atteste, ô bois aimé du ciel. J'ai chassé loin de moi toute pensée amère, et mon cœur est encore tel que le fit ma mère. Arbre de ces grands bois qui frissonnez toujours, je vous aime. Et vous, lierre au seuil des antres sourds, ravin où l'on entend filtrer les sources vives, buisson que les oiseaux pillent, joyeux convives. Quand je suis parmi vous, arbre de ces grands bois, dans tout ce qui m'entoure et me cache à la fois, dans votre solitude où je rentre en moi-même, je sens quelqu'un de grand qui m'écoute et qui m'aime. Aussi, taillis sacrés où Dieu même apparaît, arbres religieux, chênes, mousses, forêts. C'est dans votre ombre et dans votre mystère, c'est sous votre branchage auguste et solitaire que je veux abriter mon sépulcre ignoré et que je veux dormir quand je m'endormirai.
Extrait de l'ouvrage « La vie secrète des arbres, ce qu'ils ressentent et comment ils communiquent » de Peter Wohlleben aux éditions Les Arènes. Régulateur de climat. Les arbres n'apprécient pas les grandes variations de température et d'humidité. Or, la météo est la même pour tous et ils en subissent eux aussi les aléas. Cependant, il semble bien que les arbres aient le pouvoir d'influer sur leur environnement climatique. Pour ma part, j'en ai été convaincue par un petit bois des environs de Bonneberg qui se développe sur un sol sableux, pauvre et sec. Les ingénieurs agronomes qui se sont jadis intéressés au site ont déclaré que rien n'y pousserait, excepté des pins. Pour ne pas créer une zone de monoculture aride et préserver la microfaune souterraine, on planta néanmoins aussi des hêtres dont le feuillage devait tempérer l'acidification du sol par les aiguilles de pin. Personne n'envisageait que ces feuillus fournissent un jour du bois, leur seule fonction était d'être ce que l'on appelle une espèce améliorante. Mais ces hêtres n'avaient aucune intention de se contenter d'un rôle de faire-valoir. Quelques décennies plus tard, ils avaient montré ce qu'ils avaient dans le ventre. Les feuilles qu'ils perdaient automne après automne formèrent, au fil des années, une couche d'humus équilibrée à fort pouvoir de rétention d'eau. L'air ambiant devint progressivement plus humide, car les feuilles des arbustes en pleine croissance freinaient les courants d'air entre les troncs des pins. L'air circulant moins, le taux d'évaporation baissa. Ce fut tout bénéfice pour les hêtres qui poussèrent de mieux en mieux et vint un jour où ils dépassèrent les pins. Le sol forestier, le microclimat s'était modifié au point que les conditions environnementales étaient devenues plus favorables aux feuillus qu'aux sobres conifères. N'est-ce pas un bel exemple de ce dont les arbres sont capables? Comme les forestiers aiment le dire, la forêt crée elle-même son milieu idéal. C'est assurément valable pour l'atténuation des courants d'air, nous venons de le voir, mais qu'en est-il de la gestion de l'humidité? Il en va de même. L'été, l'air chaud ne peut pas dessécher un sol forestier régulièrement ombré, bien à l'abri sous le couvert des arbres. Les étudiants de l'université d'Aix-la-Chapelle ont mis en évidence à quel point l'écart de température pouvait être important entre une forêt de conifères éclaircies et une vieille hêtraie naturelle. Lors d'une journée particulièrement chaude du mois d'août, où le thermomètre a grimpé jusqu'à 37 degrés dans mon district, la température au sol de la forêt de feuillus était inférieure de 10 degrés à celle de la forêt de conifères distante de quelques kilomètres. Cet abaissement de la température, qui freine l'évaporation de l'eau, provient outre de l'ombrage, essentiellement de la biomasse. Plus une forêt héberge de bois vivant et mort, plus la couche d'humus du sol est épaisse et plus la masse totale retient d'eau. L'évaporation produit du froid, qui à son tour a pour effet de réduire l'évaporation. En termes plus triviaux, la transpiration d'une forêt intacte induit un effet identique à celui de la transpiration chez nous. L'arbre-monde de Richard Powers, édition 10-18. L'un des six châtaigniers ne parvient pas à germer, mais Jürgen Höll maintient en vie les jeunes plants survivants. La vie est un combat entre le créateur et sa création. Höll devient expert à cette lutte. Préserver ses arbres est presque trivial comparé aux autres guerres qu'il doit livrer chaque jour. À la fin de la première saison, ses champs foisonnent et son meilleur plant fait plus de 60 cm. En 4 ans, les Höll ont 3 enfants et un soupçon de châtaigneraie.
Les menues branches se dressent toutes grêles, leurs tiges brunes striées de lenticelle. Les feuilles luxuriantes, festonnées, épineuses, en dents de scie, éclipsent les branches d'où elles bourgeonnent. Hormis ce bosquet naissant et quelques chênes à gros fruits éparpillés dans les basses terres, la ferme est une île perdue au milieu d'une mer herbeuse. Même les arbrisseaux faméliques ont déjà leurs usages. De la tisane des arbrisseaux pour les problèmes de cœur, les feuilles des jeunes pousses pour guérir plaies et douleurs, du bouillon d'écorce froide pour l'accoucher qui saigne, des galles chauffées pour rogner le nombril du bébé, des feuilles bouillies au sucre brun pour la toux, des emplâtres pour les brûlures, des feuilles pour garnir un matelas qui couine, un extrait pour le désespoir quand l'angoisse est trop grande. Les années se déroulent, grasses ou maigres, et même si la moyenne tend vers le maigrelet, Jorgen détecte une progression. Chaque année de labour, il défriche plus de terre, et la réserve de laboureurs tend à grossir, vie y veille. Les arbres s'épaississent comme des créatures enchantées. Le châtaignier est vif. Le temps qu'un frêne fournisse une batte de baseball, le châtaignier a fourni une armoire. Penchez-vous pour scruter un arbuste, il vous crèvera l'œil. Les fissures de l'écorce spiralent comme des enseignes de barbier à mesure que les troncs se hissent et se torsadent. Dans le vent, les branches clignotent du vert sombre au plus pâle. Les globes de feuilles se déploient, cherchant toujours plus de soleil. Ils s'agitent dans l'août humide, comme la femme de Heul secoue parfois encore sa chevelure, jadis ambrée. Lorsque la guerre rattrape le pays naissant, les cinq troncs dépassent celui qui les a plantés. L'hiver sans pitié de 62 tente d'emporter un autre bébé. Il se contente finalement d'un arbre. John, l'aîné des enfants, en détruit un autre l'été suivant. Jamais il n'a pensé qu'arracher la moitié des feuilles pour jouer au dollar pouvait tuer l'arbre. Heul empoigne son fils par les cheveux. « Ça te plaît qu'on te fasse ça, hein ?» Il le fracasse du pas de la main. Vie doit faire rempart de son corps pour mettre fin à la raclée. Les Trognes, l'arbre paysan aux mille usages, de Dominique Mention, aux éditions Ouest France.
Le fourrage, un aliment de circonstance ou régulier. Les mondages des arbres fourragés, qui se pratiquent encore en Norvège, en Afrique et en Asie, étaient répandus partout en Europe, au point qu'on a pu appeler pré-aériens ces arbres pourvoyeurs de feuilles et de jeunes rameaux. La taille avait lieu tous les 2 à 6 ans, avant que l'importance de la masse ligneuse ne prenne le dessus sur la masse foliaire. L'orme et le frêne étaient les essences les plus recherchées, ce que vérifie l'analyse de leur richesse nutritive à son plus haut niveau à la fin du printemps. Les feuilles étaient considérées comme un complément important du foin, grâce auquel le bétail était en meilleure santé. Si cette cueillette s'exerçait dans toutes les régions, notamment en été, c'était en montagne et dans les pays nordiques, avec l'emploi prédominant du frêne, qu'elle prenait toute son importance en raison de la courte période d'herbage. Dans un premier temps, quand l'herbe des pâturages venait à manquer, on donnait directement les rameaux feuillés aux animaux présents dans la parcelle durant l'été. Une part importante, récoltée à la fin de l'été et réunie en fagots, servait de fourrage pour l'hiver. Stockés à l'abri ou à l'extérieur sur les lieux dépourvus de granges, les fagots au feuillage desséché étaient déposés dans les auges ou les râteliers. Les déchets ligneux finissaient dans la cheminée ou le four à pain. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, lors des hivers rudes, l'étêtage hivernal des houx était courant en Grande-Bretagne, où sont encore visibles d'anciens boisements de trognes de houx. On pouvait aussi pratiquer une cueillette annuelle et partielle en ne prélevant que les rameaux de 2 ans, en Autriche. En Norvège, pour assurer la soudure alimentaire avant la pousse de l'herbe des prés, se pratiquait au printemps une cueillette de rameaux en bourgeon sur une partie de l'arbre. Le prélèvement des feuilles à la main, appelé hérussage dans le Perche, avait également lieu dans toutes les régions. Les feuilles les moins appréciées étaient récoltées comme litière pour les animaux. Lors de la sécheresse de 1976, puis de la canicule de 2003, certains éleveurs eurent à nouveau recours au fourrage des arbres pour leurs bovins, qui n'avaient plus rien à brouter dans les pâturages.
L'homme qui plantait des arbres, de Jean Giono, aux éditions Folio. Le pays n'avait pas changé. Toutefois, au-delà du village mort, j'aperçus dans le lointain une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs, comme un tapis. Depuis la veille, je m'étais remis à penser à ce berger planteur d'arbres. « 10 000 chênes, me disais-je, occupent vraiment un très large espace. » J'avais vu mourir trop de monde pendant 5 ans pour ne pas imaginer facilement la mort d'Elzéar Bouffier. D'autant que, quand on en a 20, on considère les hommes de 50 comme des vieillards à qui il ne reste plus qu'à mourir. Il n'était pas mort. Il était même fort vert. Il avait changé de métier. Il ne possédait plus que 4 brebis, mais par contre une 100aine de ruches. Il s'était débarrassé des moutons qui mettaient en péril ses plantations d'arbres. Car, me dit-il, et je le constatais, il ne s'était pas du tout soucié de la guerre. Il avait imperturbablement continué à planter. Les chênes de 1910 avaient alors 10 ans, et ils étaient plus hauts que moi et que lui. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privée de parole. Et comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait, en 3 tronçons, 11 kilomètres dans la plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que des dieux dans d'autres domaines que la destruction. Il avait suivi son idée. Les hêtres qui m'arrivaient aux épaules, répandues à perte de vue, en témoignaient. Les chênes étaient drus et avaient dépassé l'âge où ils étaient à la merci des rongeurs. Quant au dessein de la Providence elle-même pour détruire l'œuvre créée, il lui faudrait avoir désormais recours au cyclone. Il me montra d'admirables bosquets de bouleaux qui dataient de 5 ans, c'est-à-dire 1915, de l'époque où je combattais à Verdun. Il leur avait fait occuper tous les fonds où il soupçonnait, à juste raison, qu'il y avait de l'humidité presque à fleur de terre. Ils étaient tendres comme des adolescents et très décidés. La création avait l'air, d'ailleurs, de s'opérer en chaîne. Il ne s'en souciait pas. Il poursuivait obstinément sa tâche. Très simple. Mais en redescendant par le village, je vis couler de l'eau dans des ruisseaux qui, de mémoire d'homme, avaient toujours été à sec. C'était la plus formidable opération de réaction qu'il m'ait été donné de voir. Ces ruisseaux secs avaient jadis porté de l'eau dans des temps très anciens. Certains de ces villages tristes, dont j'ai parlé au début de mon récit, s'étaient construits sur des emplacements d'anciens villages gallo-romains, dont il restait encore des traces, dans lesquels les archéologues avaient fouillé et avaient trouvé des hameçons, à des endroits où, au XXe siècle, on était obligé d'avoir recours à des citernes pour avoir un peu d'eau. Le vent aussi dispersait certaines graines. En même temps que l'eau réapparaissait, les saules, les osiers, les prés, les jardins, les fleurs et une certaine raison de vivre. Mais la transformation s'opérait si lentement qu'elle entrait dans l'habitude, sans provoquer d'étonnement. Les chasseurs qui montaient dans les solitudes à la poursuite des lièvres ou des sangliers avaient bien constaté le foisonnement de petits arbres, mais ils l'avaient mis sur le compte de la malice naturelle de la terre. C'est pourquoi personne ne touchait à l'œuvre de cet homme. Si on l'avait soupçonné, on l'aurait contrarié. Il était insoupçonnable. Qui aurait pu imaginer, dans les villages et dans les administrations, une telle obstination dans la générosité la plus magnifique?